La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment se passe la transition dite écologique ? D'un côté, il y a ceux qui pensent que le monde est au bord du volcan et menace de sombrer dans la lave bouillonnante, au motif que les humains, bien qu'avertis, éclairés, même sermonnés, continuent à gaspiller les ressources naturelles et à alimenter le changement climatique en émettant des gaz à effet de serre. En veux-tu, en voilà. De l'autre côté, il y a les optimistes, beaucoup moins nombreux, qui eux jurent que nous trouverons des solutions qui ne bouleverseront ni nos modes de vie, ni nos valeurs fondamentales. Tout continuera, tant bien que mal, en dépit de quelques perturbations et adaptations prévisibles, et l'humanité s'en sortira comme elle l'a toujours fait. Mais qui croire ? Quel camp choisir ? Celui des savapétistes ou celui des zélotes de la félicité planante ? Mais avant de prendre parti, posons-nous ces deux questions qui devraient être considérées comme cruciales. La première est, qu'est-ce que la science nous dit de la situation ? La seconde est, qu'est-ce que la recherche scientifique permet d'espérer ? Pour y répondre, j'ai invité Marc Fontcave. Bonjour Marc Fontcave.
Bonjour.
Nous sommes en direct par téléphone. Je vous présente en rappelant que vous êtes chimiste, membre de l'Académie des sciences, titulaire de la chaire de chimie des processus biologiques au Collège de France, et vous publiez un livre chez Flammarion qui s'intitule « Halte au catastrophisme », sous-titre « Les vérités de la transition énergétique ». Alors, pour préparer cette émission, j'ai fait un petit tour dans les librairies à la recherche de livres de prospective en matière d'économie, d'environnement ou d'énergie. Et j'ai lu les quatrièmes de couverture de ces livres et j'ai vite reconnu l'air du temps. C'est pas du tout la joie dans les rayons. On est très loin de la réunion annuelle de l'amicale de la Riette Joyeuse. Les rêves collectifs ont l'air de s'être fait la malle. Mais on voit quand même ressurgir ça et là l'hypothèse ou la conviction qu'un salut demeure possible. Preuve, comme le fit remarquer un jour Régis Debray à ce même micro, que les temps mauvais stimulent à la fois les apocalypses et les annonciations, même si c'est en proportion inégale. Alors votre livre, Marc Fontcave, c'est un livre de chercheur, mais c'est en même temps un livre de militant. On sent poindre chez vous une certaine forme d'agacement vis-à-vis des discours ambiants, et peut-être est-ce cet agacement qui vous a poussé à écrire ce livre. Est-ce que je me trompe ?
Oui, vous avez raison. Ce livre est un objet un peu particulier parce qu'en effet, il combine à la fois une réflexion sur l'état de la situation en termes de du point de vue de la transition énergétique, en essayant de donner des chiffres concrets, en essayant de montrer des directions, mais en même temps, ce fut pour moi l'occasion, en effet, d'exprimer une sorte d'agacement. Que je crois partagé par beaucoup plus de gens qu'on ne le pense, une sorte de majorité silencieuse. Alors peut-être je pousse un peu en disant majorité, mais je rencontre autour de moi beaucoup plus de personnes qui essayent d'avoir un peu d'optimisme sur le futur, à l'envers de tout ce qu'on entend en général sur les plateaux de télévision ou dans les radios, et puis comme vous venez de l'indiquer sur les tables des librairies. Alors cet agacement, oui, je l'exprime dans le livre en disant en gros arrêtons d'une part d'annoncer une catastrophe dont on ne sait pas très bien, évidemment, personne ne le sait, quand est-ce qu'elle arrivera, sous quelle forme. Donc à travers des annonces de dates qui ne sont pas évidemment établies. Enfin, si vous voulez, je suis particulièrement agacé quand, par exemple, quelqu'un comme... je suis obligé de la nommer, mais Fred Vargas nous annonce 3 milliards de morts en 2035 et sans que personne sur le plateau de cette émission ne lui demande simplement d'où sortez-vous ces chiffres. Récemment, sur une télévision, Mathieu Orphelin a une question posée par un auditeur à une matinale sur une autre radio, répond, eh bien, écoutez, le nucléaire, c'est facile, on s'en débarrasse, on fait monter les énergies renouvelables et on diminue nos consommations d'énergie, et il dit, c'est mathématique. Personne ne lui demande...
Quelle est la formule ?
Ouais, quelle est la formule? Si c'est mathématique, ça devrait être relativement simple à expliquer aux auditeurs. Voilà. Donc effectivement, et puis dernier exemple en date, je crois que c'est assez important, cette façon qu'ont les gouvernements de se donner des objectifs qu'ils savent ne pas pouvoir atteindre.
Et qu'ils
n'atteindront pas. Prenons le risque. Je ne sais pas s'ils le savent au moment où ils le font, parce que peut-être conjoncturellement ils se disent c'est formidable, on va nous trouver très écolo. Mais évidemment ils ouvrent grand la porte de la défiance qui est déjà immense vis-à-vis de l'action publique. Si vous voulez, juste un exemple et je termine là-dessus. L'Europe nous dit il y a quelques jours que une baisse de 40% des émissions de CO2 en 2030, non seulement on n'y est pas arrivé, mais c'est pas suffisant. Donc tout d'un coup, nous tombe un chiffre de 55%. Alors on n'y est pas arrivé pour 40%, sans nous expliquer d'ailleurs pourquoi et comment éventuellement le faire, mais on annonce comme ça un chiffre, 55%, qui est encore plus inatteignable, qui de fait ne sera pas atteint, et c'est une catastrophe sur le plan politique. Voilà, vous voyez, si vous voulez, c'est toutes ces choses-là qui effectivement m'agacent.
Vous êtes agacé et en même temps, vous êtes d'accord pour dire que chez vous, il y a quand même une part d'optimisme, au sens où vous faites confiance aux possibilités que la recherche offre, qui ne sont pas toutes explorées, mais dont vous réclamez qu'elles soient davantage envisagée et présente dans les discours publics.
Absolument, parce que, de fait, ce que je dis, c'est que non seulement il y a déjà des progrès, et on n'en parle jamais, parce qu'il est plus facile, évidemment, pour décrire une catastrophe, de dire, et c'est le discours ambiant, hein, c'est le discours de Greta, c'est le discours des jeunes, c'est le discours des catastrophistes, c'est de dire qu'il ne se passe rien. Et donc il se passe quelque chose, et il se passe quelque chose grâce justement à la mise en œuvre de nouvelles technologies vertes, des efforts et des investissements sur la diminution d'énergie qui viennent de la recherche. Je le dis dans mon livre, hein, aujourd'hui on peut faire du solaire avec des panneaux photovoltaïques, et par exemple, ou de la voiture électrique avec des batteries, uniquement parce que y a eu de la recherche et qui a permis de développer ces technologies-là. Imaginez si le même discours avant l'invention de ces technologies avait conduit à dire bon, de toute façon, c'est la catastrophe, la population mondiale va augmenter, on n'y arrivera pas, donc c'est pas la peine de faire de la recherche.
Donc ce que vous dites, c'est que les innovations sont beaucoup plus portées par la recherche que par des injonctions politiques, par exemple.
Ah, absolument. D'ailleurs, je dis clairement. Peut-être je m'avance parce que je n'ai pas non plus la culture de toute l'histoire de l'humanité, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de révolution technologique dans l'histoire de l'humanité qui ait été décrétée par un gouvernement. Ce sont des révolutions qui sont arrivées à la vitesse des progrès scientifiques et techniques et donc de la recherche. Et c'est pour ça que dans votre introduction, à un moment donné, vous discutiez des deux finalement philosophies, pessimiste ou optimiste, en demandant qui croire. Ce que je voudrais, et d'ailleurs en parlant des seconds comme éventuellement planants, c'est le
mot caricature.
Oui, bien sûr que j'ai retenu, mais justement, j'en profite pour dire que ce n'est pas du tout plané, parce que quand on regarde dans mon ouvrage, on voit bien concrètement que, d'ailleurs, j'en profite pour citer même des prix Nobel qui ont contribué pour bien montrer que c'est la recherche, y compris fondamentale, hein, qui a permis ces avancées. Alors, qui croire? Et si vous voulez, je me place pas de ce point de vue-là. C'est pas une question de croyance. Ce n'est pas une question de croyance. C'est beaucoup pour moi une simple question si on a le choix entre dire c'est la catastrophe, on ne croit pas en la capacité des acteurs, entreprises, qu'on met toutes sous le terme de lobby, gouvernements qui ne sont plus crédibles. La seule solution pour moi, je n'en vois pas d'autre. C'est de faire confiance en l'homme et dans sa capacité à se coltiner des problèmes, même difficiles, même très très difficiles, c'est clair qu'ils le sont, et de trouver des solutions technologiques, scientifiques. Alors, ça sera jamais parfait, ça sera jamais assez vite, mais je ne vois pas d'autre solution. Donc, c'est pas une question de croyance, si vous voulez, c'est une question de... Il n'y a pas d'autre choix.
Alors j'ai bien compris Marc Foncal, mais j'ai une petite question là qui m'est venue en vous écoutant. Est-ce que vous avez déjà cherché les anagrammes de votre nom avec votre prénom?
Non.
Parce que je me demande s'il n'y a pas là la clé de votre optimisme. Marc Foncal, ça fait ça va forcément. On pourrait ajouter ça va forcément aller, mais là non, il y a ça va forcément. Donc je dis pas que c'est la cause de votre optimisme, mais peut-être que ça donne une cohérence entre votre nom et vos propos. Non. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi pour dire que penser la catastrophe, c'est-à-dire l'envisager, n'est pas la même chose que l'annoncer ou la prédire. Par exemple, Jean-Pierre Dupuis, que vous connaissez, qui a écrit un livre célèbre, Le catastrophisme éclairé, n'annonce pas la catastrophe. Simplement, il dit, je le cite, c'est parce que la catastrophe constitue un destin détestable, dont nous devons dire que nous n'en voulons pas, qu'il faut garder les yeux fixés sur elle, sans jamais la perdre de vue. Ah ben, Autrement dit, cette façon de la penser est au contraire motrice, et non pas une tendance qui pousse à l'inaction.
Oui, mais Étienne, avez-vous l'impression que ce discours-là de Dupuis, on l'entend aujourd'hui?
Non, en plus il a été déformé, même parfois il a été transformé en son contraire, comme un discours justement catastrophiste.
Absolument. Non, mais moi je suis pas loin de penser cela. Je le dis quand même dans mon livre, la situation est grave. J'ai aussi, à la fin d'ailleurs, parce que peut-être ça peut faire l'objet d'un autre livre, mais pour moi c'est une grande question, la question de l'adaptation. Je parle de recherche comme moyen recherche, pas que recherche fondamentale, celle que je fais moi-même, même si je fais aussi
de recherche. Il faut rappeler que vous dirigez un laboratoire de chimie des processus biologiques au Collège de France.
Oui, c'est ça, je peux dire en quelques mots.
Qu'est-ce qu'on y fait d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on fait dans ce laboratoire?
Dans ce laboratoire, on s'intéresse à un phénomène formidable dont vous avez sûrement discuté dans vos émissions, qui est la photosynthèse.
Absolument.
Qui est ce merveilleux phénomène d'une très très grande complexité qui permet à la nature, au fond, de stocker l'énergie solaire en transformant le CO2 et l'eau, en les couplant pour faire toutes les molécules du vivant qui nous entoure, appelons-la la biomasse si vous voulez pour
la matière organique, ça se dit.
Voilà, c'est ça, oui, la matière organique qui nous entoure, qui contient des molécules très riches en énergie et riches de l'énergie solaire qui a été utilisée pour les produire.
Donc on pourrait dire qu'elle stocke de l'énergie solaire, finalement.
Voilà, exactement. Et donc, moi, je fais partie de ces chimistes dans le monde qui s'intéressent au développement de technologies de photosynthèse dites artificielles, parce que on va développer des dispositifs qui vont reprendre les grands principes de cette photosynthèse naturelle. Et donc, je suis dans une recherche de dispositifs, de catalyseurs, parce qu'il faut des catalyseurs, mais enfin si on a le temps, je peux continuer à expliquer un peu ce que c'est, mais peut-être c'est pas nécessaire à ce niveau-là. En tout cas, de mettre au point des dispositifs qui, en effet, non seulement comme les plantes, par exemple, vont consommer du CO2, et donc ça c'est bon puisqu'il y en aura un peu moins dans l'atmosphère. Deuxièmement, stocker de l'énergie solaire et troisièmement produire des molécules carbonées qui continueront à être utiles pour nos sociétés. Vous avez vu dans l'ouvrage l'énergie que je dépense à expliquer aux gens que le carbone n'est pas tout pourri et qu'on aura besoin de carbone demain.
Il ne s'agit pas de décarboner la planète, dites-vous, mais de décarboner l'énergie.
Exactement.
Alors d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce rôle positif du carbone, puisque en effet, on l'identifie presque toujours dans les discours trop rapides aux dégâts qu'il provoque par le biais du CO2, mais pour le reste, quelle est sa fonction vitale?
Eh bien, je viens de parler de la photosynthèse. Le CO2 n'est pas que la molécule responsable dans l'atmosphère du réchauffement climatique. Elle est cette molécule absolument clé du monde vivant qui crée un lien entre l'homme et la nature à travers, pour simplifier, ce double phénomène biologique, respiration, photosynthèse. Par la photosynthèse, la nature consomme le CO2 et fournit aux humains l'oxygène et la biomasse, la matière organique qui nous est nécessaire, notamment pour l'alimentation. Et nous fermons le cycle nous-mêmes en respirant grâce à cet oxygène et en consommant cette énergie de la matière organique qui nous fournit leur énergie. Et nous recrachons du CO2 et de l'eau qui est ensuite réutilisée par la photosynthèse. Donc c'est une molécule absolument clé. Toute la matière organique qui nous entoure, c'est du CO2, c'est du carbone qui vient du CO2. Ça, c'est le premier aspect. Et les gens l'oublient. Et le deuxième aspect, c'est que, évidemment, nos sociétés sont construites massivement sur du carbone, mais pas uniquement pour le transport, par exemple, en brûlant du pétrole ou les centrales thermiques en brûlant du charbon. Mais il y a tout un tas de choses dans notre environnement qui sont carbonées et qui le resteront toujours et dont on aura toujours besoin. Juste un exemple, un médicament, c'est une molécule organique, c'est du carbone. Et demain, les médicaments continueront à être du carbone. Et dans l'industrie chimique, il y aura une quantité, des milliers, des dizaines de milliers de molécules qui seront utiles demain pour les sociétés humaines, y compris dans le monde de demain. Sans doute, y en aura-t-il un jour comme celui-là qui n'aura plus de ressources fossiles carbonées comme source de carbone.
Fonca, on va parler dans cette émission du fond de la question de l'énergie, hein, comment est-ce que la transition énergétique ou écologique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, se déroule. Mais en préambule, je voulais vous dire que j'ai remarqué une contradiction entre deux phrases dans votre livre, l'une qui est à la page 13, l'autre qui est à la page 24. Je vais les lire pour les auditeurs. La première, c'est la première du livre. « La planète a vécu un réchauffement climatique très rapide au cours des 50 dernières années ». Et les activités humaines semblent en être les principaux responsables. Semblent, comme s'il y avait un doute. Et je m'attendais dans les pages suivantes à ce que vous expliquiez que la science est le doute. Chose qu'on entend à mon avis trop souvent parce qu'on confond en prononçant cette phrase, la science et la recherche. La science et les connaissances, elles sont pas complètes, il y a des questions qui se posent et on fait de la recherche pour y répondre. Mais page 24, vous écrivez... Les travaux du GIEC ont mobilisé tant d'experts de toutes disciplines, climatologues, physiciens, chimistes, de haut niveau scientifique et technique, produisant une masse considérable de données, que la conclusion qui en est tirée, à savoir la responsabilité du CO2 anthropique, doit avoir aujourd'hui pour nous, et en particulier pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de compétences en climatologie, valeur de vérité. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ces deux phrases ? Semble en être les principaux responsables, et puis valeur de vérité. Entre le semble qui est dubitatif et l'idée de vérité associée à ses connaissances.
Oui, vous avez peut-être soulevé une contradiction. Ce que j'ai en tête, c'est que, et d'ailleurs, mon message est très fort, hein, c'est-à-dire que m'adressant aux climato-sceptiques, je leur dis, la science a établi cela. Et en même temps, j'ai en tête que c'est un sujet d'une telle complexité. On peut pas dire aux gens que c'est simple et que voilà, l'affaire est terminée.
Mais ça peut être complexe, c'est vrai. Ça peut être complexe, c'est vrai. En même temps.
Bien sûr, bien sûr. Mais dans le semble, c'était aussi le message que je donne d'ailleurs un peu après, hein, après la deuxième phrase que vous avez indiquée. De laisser la recherche se poursuivre, d'essayer de comprendre, oui, la complexité de cette
mais
chose-là.
Mais les climatologues le disent eux-mêmes, il y a des choses qu'ils savent, dont ils sont sûrs, et d'autres qui ne savent pas. Et ça, c'est la démarche normale de la science. Mais il y a le fait que le carbone, enfin le CO2 d'origine anthropique ait un effet sur le climat, c'est désormais une connaissance scientifique qui ouvre à des questions dont on n'a pas les réponses. Mais il y a quand même cette connaissance au départ, acquise. Et d'ailleurs, oui, vous-même, vous faites une grande confiance.
Mais il y a peut-être d'autres.
Voilà, vous accordez une grande confiance à la science et à la recherche. Et donc, cette phrase m'a semblé être un petit peu contradictoire avec le reste de votre livre. Bon, c'est une appréciation personnelle. Hein.
Peut-être.
Alors, oui. Vous déplorez que dans le débat public, les connaissances scientifiques n'aient pas la place qu'elles méritent. Ça m'a fait penser à cette phrase de Georges Bataille dans La Part maudite qui dit « La méconnaissance par l'homme des données matérielles de sa vie le fait errer gravement ». Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la parole scientifique n'est pas assez connue, notamment dans les sphères gouvernementales, dans le monde politique ? Vous racontez quelque part qu'en 2012, vous avez été contacté par un collaborateur d'un candidat, qui a d'ailleurs gagné l'élection, et ce qu'il vous a dit de la science vous a traumatisé au point que vous n'avez pas donné suite, si j'ai bien compris, à la collaboration qu'il vous proposait.
Oui, absolument. Alors, c'est vrai, c'est vrai que... Nos politiques, en particulier en France, c'est pas vrai partout, hein, puisque je citais aussi dans l'ouvrage une analyse d'Hervé Lebras d'ailleurs,
géographe.
Qui comptait les docteurs en sciences, ouais, démographe, ouais, qui comptait les docteurs en sciences, docteurs, pas en sciences, hein, docteurs dans les différents gouvernements. La France n'en avait aucun à ce moment-là, mais d'autres pays en avaient. La chancelière allemande est une très grande scientifique. Enfin, donc, je crois que ça aide. Ça, c'est mon point de vue. Mais il n'y a pas que les politiques, si vous voulez, qui sont touchés par cette absence de culture scientifique. C'est vrai aussi dans les médias. Je suis assez étonné de la faiblesse, je dirais, de la culture scientifique chez les journalistes. Voilà. En même temps, si je me permets, c'est tellement compliqué. C'est un véritable défi, je dirais, de faire rentrer dans le débat des notions que les scientifiques maîtrisent le mieux possible, mais de toute façon insuffisamment eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils font de la recherche. Donc le sujet est très très difficile. Je ne jette pas obligatoirement la pierre, si vous voulez, mais je serais quand même heureux qu'une place plus grande soit faite à un peu plus de contenu scientifique. À nouveau, je reprends les deux exemples que je vous ai donnés, parce que je pourrais en donner plusieurs, mais restons sur cohérents. Ces deux exemples sur quelqu'un qui affirme 3 milliards de morts en 2035, vous imaginez, pratiquement la moitié de la population mondiale. Et puis un élu député qui nous dit c'est mathématique, et que dans aucun des cas... on fait l'effort
d'argumenter
les auteurs de ces propos ou les journalistes de dire ah ben profitons-en, informons nos auditeurs d'où vient ou comment ont été calculés 3 milliards, où est la mathématique là entre ça, on peut faire ça peut-être assez simplement entre énergie renouvelable, nucléaire et diminution d'énergie, etc. Voilà, donc Nos concitoyens sont juste assommés de slogans.
Vous écrivez, les citoyens ont le sentiment qu'on les berne, sans comprendre la réalité physique, technologique, sociale, économique des obstacles à surmonter. Et vous déplorez aussi, absolument. J'ai l'impression, vous déplorez qu'il y a une sorte de décorrélation entre, disons, la militance et puis la compétence. C'est-à-dire que les gens qui sont les plus militants, pour ou contre d'ailleurs telle ou telle technologie par exemple, ne sont pas forcément les plus compétents, et ceux qui sont compétents ne sont pas toujours très militants. Et puis ceux qui sont modérés, en général, oui, sont indifférents et font partie de ce que vous appeliez tout à l'heure la majorité silencieuse. Est-ce que je me trompe quand je fais cette analyse de vos propos ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, l'extrême pour moi, excusez-moi, j'y reviens parce que je me suis déjà exprimé là-dessus. D'ailleurs, une expression, un point de vue qu'on entend là aussi très peu, c'est cette convention citoyenne pour le climat.
Ah oui, ça vous a énervé, ça. Ça vous a énervé, je l'ai lu.
Ah oui, plutôt, ouais. Plutôt, parce que, enfin, sur de tous les points de vue, d'ailleurs. À la fois du point de vue... du caractère éminemment démocratique qu'on nous décrit de cette opération, J'ai toujours pas compris en quoi avoir le point de vue de 150 citoyens était plus démocratique qu'un autre mécanisme. Mais surtout, c'est le fait que sur un sujet aussi complexe que la transition écologique. D'ailleurs, vous avez utilisé le mot transition écologique.
Je ne sais pas ce qu'il faut dire, en fait.
Dans la transition, il y a effectivement... Ouais, je ne sais pas. Il y a différents aspects. Moi, je ne veux pas non plus rentrer dans tous les domaines, parce que je m'interdis de parler de choses que je ne connais pas bien. Il s'avère que je reste dans le domaine de l'énergie. Donc, je parle de la transition énergétique, qui est évidemment une affaire clé du contrôle du climat, puisque si on dit que c'est le CO2 qui est le climat, le CO2 c'est au fond notre consommation énergétique. Mais la transition écologique, c'est... Oui.
Oui, parce que notre consommation d'énergie est surtout à base d'énergie fossile, donc elle est très émettrice de CO2.
C'est ça, exactement, oui. 80% de notre énergie vient des fossiles, donc du carbone.
Et par exemple, pour revenir à la convention citoyenne pour le climat...
Oui, je reviens à la...
Il y a eu 150 citoyens tirés au sort, formés par des experts et qui ont ensuite émis des propositions. Mais est-ce que, à votre avis, Marc Fontcave, si on avait fait deux en même temps, c'est-à-dire un premier groupe de 150 personnes, formés par des experts qui font des propositions à l'issue de leur discussion, puis un autre groupe qui ne connaît pas le premier, formé par d'autres experts sur les mêmes questions, qui lui aussi va proposer des pistes, et on compare ensuite les propositions faites par le premier groupe aux propositions faites par le second groupe. Si elles sont complètement différentes, ça veut dire que le hasard a joué un rôle qui fait que c'est complètement arbitraire. Si au contraire elles se recouvrent, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond qui se manifeste dans les conclusions de ces délibérations.
Oui, alors, deux groupes, 300 personnes au lieu de 150.
Non, deux fois 150. Deux fois 150 pour éviter certain nombre de biais.
Oui. Ouais, je ne sais pas, je ne crois pas que ça soit démocratique. Et par ailleurs, les experts, vous avez vu, les experts qui ont conseillé ces 150,
vous n'en faisiez pas partie.
Cyril Dion, Laurence Tubiana, exactement, j'allais faire la remarque, pourquoi pas quelqu'un comme moi. Ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine, je suis président du comité de l'énergie de l'Académie des sciences. Etc. Mais non, il y avait Laurence Tubiana, Cyril Dion, etc. Donc, franchement, c'est pas sérieux. C'est ce que je pense. C'est pas sérieux. Et puis, pour revenir à la question initiale que vous avez posée, à nouveau, c'est une question tellement complexe qu'on a besoin d'experts pour instruire ce dossier et conseiller les politiques qui devront prendre des choix.
Mais en même temps, en démocratie, on doit pouvoir décider aussi ou discuter, en tout cas, du type de compagnonnage qu'on veut faire avec les nouvelles technologies, par exemple. Le numérique, mais pas seulement.
Ah, bah, bien. Oui, bien sûr.
Ou l'énergie en général.
On peut faire des sondages. Oui, on peut faire des sondages, on peut avoir l'opinion des gens, etc. Mais on a un système démocratique basé sur des représentants élus à l'Assemblée nationale qui préparent des lois, les votes, et un gouvernement aussi élu démocratiquement qui a la responsabilité de prendre des décisions. Donc voilà, ce que je veux dire surtout par rapport à notre discussion initiale, c'est que c'est un mauvais message pour l'expertise et la connaissance. S'il suffit d'avoir l'avis de 150 personnes tirées au sort, un peu aidées par de façon comment dire tout à fait particulière, enfin orientée par quelques personnes, je ne pense pas que la politique énergétique française s'en trouve formidablement relevée, alors qu'elle a un vrai besoin d'être élaborée. Il n'y a pas de politique énergétique française actuellement, si ce n'est une politique anti-nucléaire, et à part ça, pas grand-chose.
Vous connaissez le prix Nobel de physique Richard Feynman qui disait, justement à propos des questions d'énergie, la nature ne peut pas être dupée par des discours. Donc si on prononce des phrases qui contredisent les lois physiques, ces discours n'auront aucune chance de s'actualiser dans la vie réelle. Et vous citez, page 148 de votre livre, un extrait d'un texte qui a été produit lors du débat public de 2018 sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, le PPE. Il était écrit noir sur blanc. Il sera dans ce débat moins question de physique que de décision et d'orientation gouvernementale. Comme si les deux pouvaient être complètement indépendantes.
Oui, bon. C'est ça. Mais j'ai eu des expériences personnelles qui confirmaient que des gens venaient réfléchir à ces questions d'énergie en oubliant la physique.
Ouais. Alors, si je peux donner mon point de vue personnel sur ces questions-là, je suis d'accord avec vous.
Bien sûr.
Parfois, et c'est la dernière remarque que je vous ferai, je suis un peu agacé par une ou deux fois à mon tour. Hein, quand, par exemple, page 83, vous écrivez « Je préfère vivre dans un pays plus chaud sous un régime démocratique que dans un pays à la température pré-industrielle sous une dictature ». Donc c'est une sorte de faux dilemme. Ça me fait penser à ce que disait André Comte-Sponville récemment. Il préférait mourir du Covid en démocratie que de ne pas en mourir en dictature.
Oui.
Alors qu'il y a deux autres possibilités. Dans votre cas, c'est vivre dans un pays plus chaud sous une dictature ou dans un pays à la température pré-industrielle sous une démocratie. Oui. Donc il y a quatre termes. Et vous n'en retenez que deux. Et ça donne l'impression d'un dilemme qui est en fait faussé à la base.
Oui. En fait, quand on regarde le contexte de cette phrase, on peut s'apercevoir que c'est pas tellement que le choix est entre ces deux directions-là. Elle est surtout pour dire que finalement, il y a aussi parmi ceux qui évoquent la catastrophe imminente et la prise de décision de tout un tas de mesures, y compris coercitives. Avec une nouvelle morale, un nouvel appel à une sorte de pureté. Là, il y a quelque chose que je ne peux pas suivre. L'histoire de l'humanité a montré que des appels à trop de pureté conduit à de véritables catastrophes. Et je vois beaucoup, si vous voulez, dans les plus extrêmes, pas tout le monde, mais dans les plus extrêmes sur le catastrophisme, cette idée que ils ont tout compris et qu'ils veulent imposer aux autres leur vision du monde, donc cette fameuse nouvelle morale. C'est ça que je voulais récuser dans cette phrase, qui est peut-être effectivement un peu trop abrupte.
Bon, le message est clair et on va parler de science uniquement dans la deuxième partie de l'émission. Et
oui.
Avant, on va écouter un morceau de musique que vous avez choisi. Un morceau qui s'appelle Salam, joué par le groupe Illy, si je ne me trompe pas.
C'est ça, merci.
سلام يا سلام سكرت الباب على صوري على عمري عالنار اللي حرقتني سلام يا سلام سكرت الباب على صوري على عمري عالنار اللي حرقتني Dans la boîte aux lettres je laisse un souvenir l'enfance qui me pénètre un dernier soupir C'est sur ce chemin J'ai laissé mon avenir Tant pis pour les peut-être Je suis toujours là, c'est déjà ça Rien n'est plus comme avant Si je pouvais faire autrement Le monde a changé Le monde a changé Je regarde l'horizon Pas le temps de tourner en rond Ça fait des années J'arrive plus à compter Derrière ce chemin n'est pas si il est barricadé, il est barricadé. J'ai plus de haine, je suis toujours là, c'est déjà ça. Je laisse un dernier regard, je sais qu'il est trop tard. J'ai pris trop de retard. سلام يا سلام سكرت الباب على صوري على عمري عالنار اللي حرقتني سلام يا سلام سكرت الباب على صوري على عمري عالنار اللي حرقتني La tête dans les étoiles, les pieds dans le sable. Tout ce qu'il me reste, je le garde pour moi. ولا ما ننسى اللي عملوا فيه الخير تعرفت القيمة المكتوب والإيمان. Depuis tout ce temps je m'en sors comme un moi. Je croyais tout en grand, j'ai pas eu le choix. Fallait faire de la monnaie, fallait faire de la monnaie, fallait faire de la monnaie.
C'est le mieux, c'est le mieux.
France Culture, la conversation scientifique.
Étienne Klein.
Salam ya salam, salam ya salam, salam ya salam.
Marc Foncave, vous avez choisi donc Salam du groupe Illy. Choix qui a surpris notre réalisatrice Delphine Lemaire. Est-ce que vous pouvez vous justifier?
Oui.
Parlez librement.
Oui, alors c'est d'abord, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que il y a un côté affectif. Il s'avère que ce groupe est fait de ma fille et de mon gendre, qui sont des très bons musiciens, qui créent.
Ah ben en effet.
Ouais. La deuxième, c'est que j'aime beaucoup cette chanson. Elle dit des choses sur l'angoisse devant, au fond, voilà, le futur. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que voilà. Elle dit je voyais les choses en grand, bon, mais c'est pas, on y est pas. Et puis enfin, voilà, la culture française, c'est aujourd'hui un mélange de tas de cultures. Et vous voyez, cette chanson, c'est un mélange d'arabe et de français.
Elle est magnifique.
Je vous remercie.
Alors, je vous l'avais annoncé, on va parler de science. Il faudrait qu'on évoque d'abord. Parce que vous êtes chimiste, vous connaissez très très bien ces questions de stockage de l'énergie. Les batteries, voilà. Vous plaidez pour qu'on électrifie davantage l'énergie, notamment dans les transports. Mais d'aucuns pensent que les batteries sont une solution moyennement acceptable par le fait que elles polluent d'une certaine façon. Elles ont un bilan carbone qui n'est pas très bon si on prend tout le cycle de fabrication. Quel est votre point de vue sur leur usage?
Alors, la réponse que je vais donner, elle pourrait s'appliquer à pratiquement toutes les technologies. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a aucune solution qui est vertueuse totalement du point de vue des émissions de CO2, du point de vue des déchets et du point de vue du coût énergétique et écologique. En fait, voilà, ça c'est peut-être ce qu'il y a de plus grave, c'est-à-dire il n'y aura pas une amélioration, enfin, ou une augmentation de la population mondiale sans un accroissement d'impact sur l'environnement. La seule chose que nous avons à faire, c'est de le minimiser. Alors, quand on travaille sur la batterie, puisque vous parlez spécifiquement de ça, les gens, évidemment, sérieux, enfin, ceux qui connaissent le domaine, savent effectivement que y a, à tous les niveaux, des tas de nœuds qu'il faut dénouer sur le type de... par exemple, le type de métaux qu'on peut mettre dans les batteries, le type de matériaux carbonés qu'on peut mettre dans les batteries, la question de la seconde vie, la question du traitement des déchets des batteries usagées, parce qu'on va être confronté à ça. Donc sur toute la ligne, sur toute la vie de la batterie, il y a des difficultés. Et vous prenez cet exemple, mais on pourrait l'appliquer à tous. Voilà pourquoi je dis en permanence, c'est une avancée, mais il faut encore plus de recherche, encore plus de technologie, encore plus de travail en commun entre les laboratoires de recherche fondamentale et les entreprises. Et demain, on aura des batteries de plus en plus performantes. Voilà. Donc il n'y aura pas du stockage électrochimique par les batteries instantanément à une immense échelle, celle qui est nécessaire pour remplacer les fossiles, en quelques années. Ça prendra encore des dizaines d'années.
Et vous explorez, Marc Fongave, dans ce livre, beaucoup de pistes de recherche, et à chaque fois, vous précisez que ça va prendre des dizaines, voire davantage d'années pour qu'on ait les réponses aux questions qu'on se pose, ou qu'on ait à notre disposition les technologies qui sont envisagées. Et est-ce qu'on a le temps d'attendre aussi longtemps, d'une certaine façon? Est-ce que le sentiment de la catastrophe ne vient pas parfois du fait que c'est un peu trop tard et qu'on ne sera pas prêt à temps, d'une certaine façon?
Et vous voyez, votre question, si vous me permettez, n'est pas la bonne, parce que c'est pas parce que il y a des contraintes physiques, technologiques, et sans rajouter les sociales et économiques, hein, ils sont particulièrement fortes, qui font que le temps nécessaire pour faire cette révolution est celui que je vous indique, qu'il faut le cacher aux citoyens, aux éditeurs, et dire est-ce que c'est pas trop tard, que ça soit tard ou pas tard, c'est le temps qu'il nous faudra.
Non, mais je suis d'accord si avec ça. Moi, je parlais du sentiment que ça peut induire dans le public.
Justement, le public doit savoir qu'il nous faudra ce temps-là. Alors, comment vivre entre ce moment où nous sommes angoissés et le moment où on aura peut-être résolu un certain nombre de problèmes à une échelle telle que, en effet, on commencera à arrêter nos émissions de CO2, et entre-temps, puisqu'on aura continué, la concentration de CO2 dans l'atmosphère aura augmenté et la température avec, comment on va faire? Eh bien, on va faire, d'une part, en continuant à investir à investir dans la recherche de ces nouvelles technologies, en soutenant les entreprises qui y vont, et aussi en s'adaptant. Et ça, je crois que c'est vraiment une chose très très importante. Plutôt que de dire c'est la catastrophe, personne ne fait rien, et si personne ne fait rien, c'est parce qu'il y a des forces obscures qui s'y opposent, les lobbies, enfin, etc. Toujours ce discours. Non, nous savons qu'il fera chaud. Il y a pas longtemps, je disais d'ailleurs à un journaliste qui me disait « Ah ben vous avez vu, cette année, c'est l'année la plus chaude ». Je dis « Mais oui, mais l'année prochaine aussi, je parie que vous allez me dire que c'est l'année la plus chaude. La concentration de CO2 dans l'atmosphère, au mieux, est constante, mais au pire, et c'est le cas, elle augmente. » Donc c'est pas un scoop. Aujourd'hui, c'est plus la question. La question, c'est comment on fait aujourd'hui et pour les 20 prochaines années pour travailler au sujet et pas simplement de se plaindre et de donner des bons points et des mauvais points, surtout des mauvais points aux entreprises, aux gouvernants, etc., etc.
Alors, vous parlez aussi beaucoup, Marc Fontcap, dans votre livre, des biocarburants. Il y a beaucoup de recherches qui sont menées à leur propos. Vous citez un prix Nobel de chimie qui est Armut Michel, qui a eu le prix Nobel en 1988, qui dit « les biocarburants sont un non-sens ». Et vous n'êtes pas de son avis, je crois.
Ouais, là aussi, même si j'ai beaucoup de respect pour Armut Michel, d'ailleurs qui a un formidable prix Nobel, j'essaye de me méfier, vous l'avez senti peut-être dans mon livre, de me sortir de cette position équilibrée que je souhaite avoir en disant il n'y a pas que des bons et des méchants, il n'y a pas que des technologies nulles et des technologies parfaites, on est toujours au milieu. Et j'ai trouvé que Armut Michel était un peu excessif. On doit être encore dans une phase d'exploration des potentialités de ces biocarburants. Néanmoins, il avait un argument, si vous me permettez, qui était assez fort. C'était quand même en termes d'utilisation de surface. C'est-à-dire qu'il faisait le calcul entre soleil, biocarburant et voiture thermique. Soleil, biocarburant, voiture thermique. Et puis soleil, batterie et voiture électrique. Et en termes de en raison de la très grande faiblesse du rendement photosynthétique des plantes, il arrivait à un rapport de 500. Il fallait 500 fois plus de surface dans le premier scénario, c'est-à-dire avec les biocarburants, que avec le système PV batterie électrique.
Et en vous lisant, j'ai appris.
Il disait les bio. Voilà, simplement, il disait, les biocarburants, leur gros problème, c'est qu'il va falloir consacrer des surfaces absolument invraisemblables pour arriver à des énergies à peu près raisonnables.
Au détriment de l'alimentation, enfin de la production de l'agriculture.
Et en particulier au détriment de l'alimentation. Mais ça aujourd'hui, je pense que la question est à peu près résolue. À part les pays, je sais pas, comme le Brésil par exemple, qui continue à faire de l'éthanol à partir de plantes alimentaires. Aujourd'hui, tout le monde recherche des biocarburants qui sont dits de deuxième et troisième génération, c'est-à-dire qui ne sont pas en compétition avec l'alimentation.
C'est quoi le biojet, Marc Foncave? J'ai appris ce mot en vous lisant. C'est un biocarburant utilisé par certains avions dans certaines compagnies qui a été mis au point par des chercheurs de BP, je crois.
Oui, c'est ça. Oui, bah c'est une forme de biodiesel. Si vous voulez, on peut pas mettre n'importe quoi dans les avions, dans les moteurs d'avion en particulier, on a les moteurs thermiques. Hein. Il faut certains traitements, si vous voulez, des lipides, des huiles pour atteindre ce biodiesel. C'est une question de composition d'huile. Qui est différente de celle qu'on met dans les diesels des voitures.
Il y a un endroit dans votre livre où on sent, alors là pour le coup, votre optimisme, hein, quand vous dites, après avoir brûlé pendant 2 siècles les carburants fossiles, les transformant ainsi irréversiblement en CO2, l'humanité pourrait faire le chemin à l'envers, c'est-à-dire transformer le CO2 en hydrocarbures, fermant ainsi un cycle carboné qui ne serait plus émetteur de gaz à effet de serre. Bon, l'idée est très belle, mais vous savez mieux que personne que pour transformer le CO2 en matière organique, il faut des énergies importantes. Et d'où elles viendraient alors?
Oui, alors là, vous tombez exactement sur ce que je fais au laboratoire. C'est-à-dire mon projet principal, d'ailleurs, qui est soutenu par des entreprises. J'en profite pour dire ça parce que... il faut que les auditeurs sachent que, par exemple, aujourd'hui, un sujet comme ça, je ne pourrais pas le faire sans le soutien d'entreprises. Et je parle d'un laboratoire de recherche publique
et fondamentale.
Oui, absolument. C'est-à-dire, et j'en profite pour dire que certaines entreprises, grosses entreprises en général, parce qu'il faut des budgets, sont y compris capables de... d'avoir une vision à 15-20 ans, c'est le cas de mon projet, d'avoir une vision à 15-20 ans et d'investir dans des laboratoires de recherche fondamentale où ils laissent les chercheurs travailler avec une très très grande liberté, c'est mon cas. Et donc là, c'est le sujet, c'est-à-dire que l'idée, c'est de capturer, on parle de capture, hein, le CO2 à la sortie des grands émetteurs, de CO2 qu'il y a sur la planète, par exemple les cimenteries, les centrales thermiques, les fermenteurs, au niveau de ces entreprises, enfin de ces usines-là, il y a des grosses productions de CO2.
Donc on commence par le capturer plutôt.
Oui, c'est ça. Voilà, et on a à peu près le calcul, hein, de ça, c'est à peu près 10% de toutes les émissions qu'on émet. On émet 40 gigatonnes, hein, de CO2 actuellement. On peut évaluer à peu près 4 gigatonnes l'ensemble de ce sous-ensemble-là. C'est pas rien. Alors, si on arrive à le capturer, pendant longtemps, vous savez, on s'est dit, bah, une fois qu'on l'a capturé, on sait pas quoi en faire, on l'injecte quelque part sous la terre, on le planque, comme ça on n'en parle plus. Et donc on le relargue pas dans l'atmosphère. Moi, avec d'autres dans le monde, hein, je suis pas le seul. Je viens avec cette idée, ben faisons-en quelque chose. C'est du carbone. Et comme vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'on aura toujours besoin du carbone, le jour où il y aura plus de fossiles, au fond le carbone, qu'est-ce que ça sera? Ça sera soit la biomasse, ben, toute la matière organique dont vous parliez, qui est présente dans notre environnement, soit le CO2. Voilà, notre recherche, c'est de transformer le CO2 en quelque chose d'utile. Alors vous dites, il y a besoin d'énergie. En effet, moi par exemple, je travaille sur la production, la transformation du CO2 en éthylène. Vous m'avez demandé d'être précis, donc voilà un bel exemple. Qu'est-ce que c'est que l'éthylène? C'est une molécule qui est la plus produite dans l'industrie chimique dans le monde. C'est 200 millions de tonnes par an. Évidemment, vous comprenez peut-être pourquoi. C'est un précurseur de tout un tas de molécules, de polymères de l'industrie et de nos sociétés. Aujourd'hui, c'est produit à partir des fossiles avec beaucoup d'émissions de CO2. C'est des procédés très énergivores. Moi, ce que je propose, avec d'autres à nouveau et avec les entreprises, c'est d'utiliser de l'énergie renouvelable, solaire par exemple, et c'est ce que nous faisons. Nous avons publié un article dans les Proceedings de l'Académie des sciences des États-Unis l'an dernier, où nous couplons un panneau solaire avec un électrolyseur, où nous transformons le CO2 en éthylène avec des rendements qui sont supérieurs à la photosynthèse naturelle.
Mais la vôtre est artificielle, donc.
Vous voyez, donc voilà, c'est un exemple de photosynthèse artificielle où au lieu de produire du glucose, peut-être qu'un jour on y arrivera, je ne sais pas, mais je le crains que non tout de suite. Mais en tout cas, vous voyez, aujourd'hui, on peut faire de l'éthylène. Et l'éthylène, c'est pas rien. Et évidemment, vous avez raison, comme c'est un processus qui demande de l'énergie, il faut que cette énergie soit évidemment verte.
Et au passage, vous parlez d'une réaction chimique qui porte le nom de Fischer-Tropsch. Qu'est-ce que c'est ?
Oui.
Mes souvenirs de chimie, c'est alors, étant très, Fischer... très, très, très lointain.
Oui.
C'est très imprécis.
La réaction de Fischer-Tropsch, c'est une réaction qui a été mise en œuvre dans des usines, notamment pendant la guerre. C'est un mélange de monoxyde de carbone, idéalement venant du CO2, hein, mais aujourd'hui qui vient plutôt des fossiles, comme tout ce qui est carboné. Vous mélangez le CO avec de l'hydrogène, vous chauffez, vous avez des catalyseurs spécifiques, et vous faites des hydrocarbures, vous faites du pétrole. Et pendant la guerre, on a fait circuler des engins avec du pétrole qui venait de cette réaction.
D'accord. Alors, un autre sujet qui est très intéressant dans votre livre, c'est lorsque vous parlez de l'hydrogène, qu'on présente souvent comme un nouveau pétrole, en oubliant de dire parfois que l'hydrogène n'existe pas sous forme moléculaire dans la Terre, donc il faut le produire avec de l'énergie, là encore. Oui. Et donc, est-ce que c'est une voie d'avenir, non pas comme source d'énergie, mais comme vecteur d'énergie ?
Alors, vous avez entièrement raison, il faut bien dire et redire vecteur, parce que là aussi, hein, on entend parfois dire n'importe quoi. Je pense que l'hydrogène a sa place dans le mix énergétique de demain, à la fois comme moyen de stocker des énergies renouvelables, éoliennes ou solaires. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un excès de ces énergies, vous pouvez les transformer en énergie chimique, c'est-à-dire en utilisant par exemple l'électricité qui vient d'un panneau photovoltaïque et en électrolysant de l'eau. Et ça, c'est des choses qu'on sait faire, hein. C'est industriel. Alors, il faut améliorer les rendements, il faut améliorer les procédés, mais et quand vous faites de l'électrolyse de l'eau, vous obtenez de l'hydrogène. Et cet hydrogène est plein de l'énergie solaire que vous avez utilisée pour le produire. Et vous pouvez le stocker et le réutiliser comme carburant. Ensuite, dans un deuxième temps, quand il n'y a plus de soleil, quand il n'y a plus de vent, à l'aide de ce qu'on appelle une pile à hydrogène ou une pile à combustible. Donc ce type d'application sera utile. D'autre part, l'hydrogène pourra être un carburant dans certains transports. Vous voyez, on peut imaginer que certains transports lourds, camions, cargos, etc., pourra pas tellement bien fonctionner avec des batteries, à cause d'une quantité d'énergie limitée dans ces batteries. Donc il faudra trouver d'autres carburants. Personnellement, à présent, je ne crois pas trop à l'avion à hydrogène, mais bon, des gens y travaillent. Mais si vous voulez, voilà, il y aura des applications pour l'hydrogène. Mais la grande question, qui n'est jamais débattue, c'est quelle est l'énergie qu'on va utiliser pour produire cet hydrogène. Je donne juste un chiffre, puisque c'est bien d'être précis. La France produit 1 million de tonnes d'hydrogène par an. Tout cet hydrogène, c'est pratiquement, ça vient du méthane, hein, du gaz. C'est la réaction dite de reformage. C'est comme ça qu'on produit de l'hydrogène. Donc il n'est pas du tout vert. si on veut le rendre vert, il faut y mettre de l'énergie. Mais l'énergie pour produire notre million de tonnes actuelles d'hydrogène, c'est l'équivalent, je ne dis pas qu'il faut faire ça uniquement avec du nucléaire, mais c'est l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires. C'est colossal. Donc voilà, donc quand on dit demain il y aura plus d'hydrogène, il faut aussi se poser la question, surtout, comment on va le produire.
Et si on le fait par électrolyse, par exemple?
Oui. Si on le fait par électrolyse, c'est ce que je vous dis. Si,
il faudrait 6 réacteurs nucléaires en électricité.
Voilà, c'est l'équivalent. Exactement. Et je ne parle que du million. C'est-à-dire que si en plus on introduit des voitures à hydrogène et des camions et des bateaux et des etc., c'est pas 6, mais beaucoup plus. Alors à un moment donné où on est en train de nous dire qu'on n'a plus besoin de nucléaire, je suis un peu inquiet.
Alors est-ce que vous pensez qu'un jour, Marc Fontcap, on pourra stocker en grande quantité l'électricité, ce qui n'est pas possible aujourd'hui? En tout cas, on n'a jamais réussi à le faire. Parce que les énergies dites renouvelables, elles sont intermittentes. Et il doit donc y avoir une égalité stricte entre la production d'électricité et sa consommation. Et quand il y a un décalage, eh bien il y a la fréquence de 50 Hz n'est plus possible. Et du coup, il y a beaucoup d'appareils qui décrochent. Et ça pourrait provoquer une sorte de chaos. Et donc, est-ce que, à votre avis, on pourrait, à moyen terme, au prix de très longues recherches, trouver le moyen de stocker l'électricité, ce qui changerait complètement la donne en la matière?
Vous avez raison, c'est peut-être ce qui me semble être le nœud le plus grand du développement des énergies renouvelables. Leur plus grand défaut, c'est l'intermittence, et le plus grand besoin, c'est celui de stocker ces énergies. C'est clair qu'on a une quantité massive de soleil qui nous tombe dessus. C'est pas ça qui est limitant. Ce qui est limitant, c'est que parfois dans la journée il fait nuit ou c'est nuageux, etc. Donc il faut des technologies de stockage. Quel est le stockage? Le stockage, il est soit chimique, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est faire de l'hydrogène à partir de l'eau, ou transformer le CO2 en molécules carbonées, en éthylène par exemple. C'est une forme de stockage de l'énergie solaire. Soit c'est ce qu'on appelle le stockage électrochimique, c'est les batteries. Soit enfin, c'est le stockage hydroélectrique, c'est les barrages. Quand vous avez trop d'énergie solaire, vous remontez de l'eau entre deux lacs, et lorsque vous avez besoin de cette électricité, vous relarguez de l'eau. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Ça sera ça demain. Et donc, comme le stockage hydroélectrique, il est un peu limité parce que on va pas pouvoir mettre des barrages de grandes maisons partout en France. Il n'y a pas beaucoup la place. Eh bien, il reste le stockage électrochimique, les batteries, ou le stockage chimique. Et en effet, comme on vient de le dire tout au long de cette dernière demi-heure, ces technologies existent. On en maîtrise en partie la complexité, mais pas totalement. Et en tout cas, on n'est pas à l'échelle nécessaire pour avoir 100% d'énergie renouvelable dans notre mix électrique. Cette idée-là est absurde, je l'ai dit. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut de l'énergie nucléaire. Je n'arrive pas à voir un autre schéma que l'énergie nucléaire.
Marc Fontcap, j'ai beaucoup d'autres questions à vous poser, mais malheureusement, l'émission doit s'arrêter. Oui. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je recommande la lecture de votre livre, Halte au catastrophisme, les vérités de la transition énergétique. Comme nous sommes en direct, j'en profite pour souhaiter une joyeuse fin d'année à toutes et à tous. C'était donc La Conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique et au son Baptiste Lénard, et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire vraiment maintenant, pour ne pas dire immédiatement, vous retrouvez Olivia Gelsbert pour En français dans le texte.